Bonsoir. La CENI a publié mardi dernier le calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 11 provinces. Accusés notamment de mauvaise gestion, certains de ces gouverneurs ont été déchus par leurs assemblées provinciales. D'autres, par contre, ont été rappelés à Kinshasa pour consultation et n'ont jamais regagné leur province. Quelle analyse faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Monsieur Benoît Youlama. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien conseiller au ministère de l'Intérieur, également communicateur de la majorité présidentielle. Maître Soudi Kimputua Limasi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en décentralisation. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Maître Sylvain Loumou, directeur de l'Institut Alternative et Initiative Citoyenne pour la Gouvernance Démocratique et Défenseur des Droits de l'Homme. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ainsi que je le disais dans le sommaire, la Commission électorale nationale indépendante a publié mardi dernier un calendrier qui prévoit au 26 août prochain l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 11 des 26 provinces. Mais plusieurs voix se sont levées pour décrier le fait que cette décision de la CENI viole les lois de la République. Berry Franklin Luchaka pour les détails.
Les provinces concernées par l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs sont le Bas-Ouélé, l'Équateur, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Kasaï Central, le Kwilu, la Mongala, le Sud-Kivu, le Sud-Ubangi, la Tchopo et la Tchopa. Dans la procédure, la CENI dit que le dépôt des candidatures doit intervenir entre le 21 et le 25 juillet et l'élection aura lieu le 26 août prochain. Plusieurs réactions ont été enregistrées après cette publication. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, par exemple, s'étonne que l'élection du gouverneur du Kasaï Central soit programmée alors que l'actuel gouverneur Alex Kandé est encore en fonction. Le sénateur Jacques Joly, pour sa part, désapprouve l'organisation des élections dans les provinces où les gouverneurs ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle après avoir été déchus par les députés provinciaux. Jacques Joly.
Tant que nous n'avons pas la certitude que ces gouverneurs ont formellement déposé leur démission, nous ne pouvons pas aller aux élections avec ces calendriers. Organiser des élections là où les gouverneurs, soit, n'ont pas formellement démissionné, même s'ils ont été l'objet de motions, la Cour les a réhabilités et que les arrêts de la Cour s'imposent à toutes les institutions, nous prenons un peu trop de latitude avec notre Constitution.
Face à toutes ces réactions, la CENI répond. Le rapporteur adjoint dit que son institution n'a fait que répondre à la demande du ministre de l'Intérieur d'organiser ces élections. Onésime Koukatoula.
La CENI a été saisie par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et Sécurité pour constater les vacances et il a demandé à la CENI d'organiser des élections de gouverneurs et ou vice-gouverneurs des 11 provinces. Les débats sur qui a fait quoi, qui ne peut faire, n'existent pas au niveau de la CENI.
En dépit de ces explications, Augustin Kikukama, président du M17, insiste, je cite, « Il faut absolument que les textes juridiques, les lois de notre Constitution soient respectés. » Fin de citation.
Merci Berry Franklin Luchaka. Benoît Youlama, ancien conseiller au ministère de l'Intérieur, vous êtes également communicateur de la majorité présidentielle. Comment vous analysez cette situation?
Je remercie d'abord la radio Capi qui m'associe à cet échange. Cette situation se justifie par la volonté de la famille politique à faire un effort de changer les choses au niveau de la base. Et vous vous rappellerez que sur les 11 provinces qui ont été nommément citées, ces provinces ont connu des problèmes, notamment le rapport très médiocre entre les gouvernants ou les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales, mais aussi certains problèmes de mésgestion qui ont été décriés soit par la population, soit par les députés provinciaux. Et pour sauvegarder l'essence du développement et surtout la démarche qui a été amorcée depuis le début de la mise en place de ce gouvernement provincial, et il a été décidé d'une manière tout à fait unanime au niveau de la majorité présidentielle qu'on aide ces provinces à aller de l'avant et surtout à éviter des conflits là où il y a des conflits. Et la plupart des gouverneurs, quoi qu'il y ait des doutes pas certains de vos auditeurs, ont déposé leur démission, ce qui est conforme à l'esprit, puisqu'ils ont été présentés sous l'étiquette de la majorité présidentielle. Et donc, il n'y a pas assez de doutes sur ces démissions. Elles sont déjà là. Et les heures à venir vous diront un peu plus clair sur ce qui a déjà été fait. Mais nous pensons que au niveau de la famille politique, nous avions en tout cas privilégié une démarche qui est tout à fait consensuelle. Et on échange avec tous les anciens gouverneurs ou les gouverneurs qui sont encore là. On a discuté fortement au niveau de la famille politique et au niveau de la commission chargée des questions électorales, mais au niveau aussi du comité politique de la majorité présidentielle, pour qu'on regarde qu'est-ce qu'il faut donner comme réponse à certaines revendications de ce gouverneur. Tout est fait prêt et je crois que nous n'entendons que l'organisation des élections par la Commission électorale nationale indépendante.
Benoît Youlama, vous dites qu'il y a une volonté de changer les choses. La majorité veut aider les provinces à aller de l'avant, mais de quelle manière? Est-ce que toutes les procédures ont été respectées?
Absolument. Contrairement à ce que j'ai entendu du professeur Joly, absolument, il est même en retard de certaines informations qui ont été envoyées sur la presse publique. Si vous prenez le Sud Kivu par exemple, vous avez entendu que Masalé Chisambo a déposé sa démission et d'autres sont en train de le faire même au moment où nous parlons. Mais il faut retenir que le décret qui intéresse l'opinion...
Au moment où nous parlons, ils le font après que l'on ait annoncé le calendrier
pour les remplacer. C'est une démarche éminemment politique. Ce n'est pas une démarche judiciaire où on demanderait qu'on respecte...
Mais qui viole les lois de la République.
Absolument pas. Ça n'a violé aucune loi. Les décrets qui sont presque des cas emblématiques, c'est les deux gouverneurs qui ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle. Mais je vous rassure que tous ces deux gouverneurs ont eu déjà déposé leur démission depuis longtemps. Et la dernière fois que j'ai été ici...
En tout cas,
ici,
ça n'a pas été rendu officiel.
Certainement jusqu'à la peut-être pas officiel, puisque c'est pas à la place publique qu'il faut déposer ça, c'est auprès des...
C'est en public qu'ils ont été élus.
Ils n'ont pas été élus en public, mais c'est devant les assemblées respectives. Et je crois que c'était un huis clos. Moi-même, j'ai participé aux élections de gouverneur, c'était un huis clos. Même moi, j'ai été interdit d'accéder dans la salle. C'est la publication
du résultat
qui est... La publication des résultats qui est officielle, là je suis d'accord avec vous, mais c'est plutôt la publication des résultats qui était officialisée. Et donc, c'est ce qui est en train d'être fait, et il n'y a rien. Le DK, j'étais avec le gouverneur Lobotu au téléphone la fois est passée, il avait estimé que s'il y aurait des problèmes politiques, il serait tenu au courant et qu'il respecterait les décisions de sa famille politique. Donc il n'y a aucun problème dans ce qui est en train d'être fait.
Alors qu'est-ce que vous pensez par exemple du cas des gouverneurs tels que Alex Kande du Kasaï Central, le gouverneur Tokole de la Tshopo qui ont été rappelés pour consultation mais qui vont être remplacés sans qu'il n'ait démissionné, qu'il n'y ait eu aucune action officielle de leur part pour montrer qu'ils se désengageaient de leurs responsabilités.
Non, vous serez tenu au courant. La radio Capier est suffisamment informée. Et je crois que d'ici quelques heures, vous serez tenu au courant. Et ce sont des personnalités politiques que nous respectons, que nous avons consultées et on a échangé. C'est après les échanges que la décision a été prise pour qu'on demande au ministre ayant les affaires intérêts dans sa responsabilité à pouvoir communiquer avec la CENI. C'est ce qui a été fait et rassurez-vous qu'aucun d'entre eux ne viendra annoncer les contrats de ces questions, en train de vous dire.
Mais alors, qu'est-ce qui gêne la majorité présidentielle pour qu'elle ne respecte pas carrément les procédures? C'est des choses très simples, où vous demandez officiellement à un gouverneur, si vous lui avez retiré la confiance, de démissionner, ou qu'il rentre et que l'Assemblée provinciale respecte la procédure et le démette. On a l'impression qu'il y a une certaine absence de transparence, Benoît Youlama.
Il y a la transparence, cher frère, je dois vous rassurer qu'il y a la transparence, il n'y a rien à cacher. Puisque l'élection elle-même appelait à beaucoup de clarté. Et ce qui est en train d'être fait présentement a été discuté. Et tout ce gouverneur savait ce qui devait arriver. Ils ont été associés. Et je vous ai rassuré qu'il y a d'autres qui étaient en train de déposer, même avant que je ne sois sur le plateau ou les antennes de la radio Capi. Et donc, on a respecté toutes les procédures en la matière. Ils ont été présentés comme candidats par la majorité présidentielle. Et lorsqu'ils retirent la majorité, leur retirent la confiance, il y a des conséquences sur le plan purement politique. Et donc, il n'y a rien à cacher. Donc, tout est transparent. Donc, nous devons nous habituer à ce jeu politique, puisque c'est une émanation de la Constitution. Et donc, lorsque la famille politique a retiré confiance, il n'y a pas de discussion. Il faut certainement obtempérer. C'est ce qui a été fait par tous les anciens gouverneurs.
Un jeu politique qui donne lieu à un désordre institutionnel, pratiquement.
Il n'y a pas un désordre institutionnel. Je crois que la fois dernière, j'ai même évoqué que nous sortions des gouvernements des autochtones. Il y a beaucoup de conflits et nous devons éviter des conflits et mieux vaut prévenir que guérir. Et ce qui a été en train d'être fait, c'est pour certainement nous rassurer de la gestion des affaires publiques au niveau provincial.
Merci. Maître Sylvain Loumou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut Alternative et Initiative Citoyenne pour la Gouvernance Démocratique et Défenseur des Droits de l'Homme. Comment vous analysez toute cette situation? Vous avez suivi M. Benoît Youlama qui estime que toutes les procédures ont été respectées, qu'il y a cette volonté de la part de la majorité présidentielle de changer les choses au niveau de la base.
Merci beaucoup à vous-même et aussi et surtout à la Radio Okapi qui m'associe à cet échange républicain. Et donc, surtout en cette question qui fait débat aujourd'hui, et grâce à mon co-débatteur, j'ai entendu beaucoup de choses ici, et je me suis demandé finalement, pendant que j'étais en train de le suivre religieusement, je me suis demandé s'il y avait encore dans ce pays quelque chose qui pourrait être respecté. Parce que, vous savez, je me souviens que le chef de l'État avait, de bonne foi, inauguré les états généraux de la justice dans ce pays, et il avait épinglé notamment le non-respect de la loi et des décisions de justice comme un des grands maux qui ronge notre société. Donc dans un état démocratique, il n'y a aucune autre référence que la loi. En l'occurrence, la constitution qui régente tous les rapports et donc qui devrait être respectée. Contrairement donc à ce que venait de soutenir mon co-débatteur, communicateur de la majorité, la démarche qui est entreprise, et vous l'avez entendu dire que cette démarche est éminemment politique et n'a rien à voir avec une démarche juridique. Et donc, nous sommes dans deux mondes différents, un monde où la politique régente tout, y compris en marchant sur des lois et des formes prescrites, et un monde où la loi est donc, soumise à d'autres citoyens. Pour preuve, lorsque l'on nous dit que les démissions sont en train d'être déposées ou les seront quelque temps après, c'est justement pour nous dire que on a commencé une démarche. Des gouverneurs qui ont été investis par des ordonnances du chef de l'État, eux peuvent partir par la volonté d'une famille politique qui s'est décidée de manière unanime, et même la commission chargée des questions électorales. Est-ce ce sont là des institutions de l'État reprise dans la Constitution pour décider du sort des institutions qui ont été mises en place à l'issue d'un processus démocratique? C'est une interrogation qui nous hante. Ensuite, je voudrais rappeler, par rapport à l'un des derniers événements importants qui a eu lieu sur les plans politiques dans ce pays, l'accord du 31 décembre 2016, dit accord de la Saint-Sylvestre. Au cours de dans les grandes lignes de cet accord, l'essor des institutions à mandat électif a été scellé. Ça veut dire qu'elle restait en place jusqu'à la mise en place, donc à l'élection des animateurs, des nouveaux animateurs des institutions à l'issue des élections prévues en décembre 2017. Là, encore une fois, permettez-moi de vous dire que l'accord vient d'en souffrir. En ce qui concerne la loi, justement, il n'y a que des cas, notamment le décès, la démission, la motion de censure ou la révocation en bonne et due forme par le chef de l'État qui peuvent entraîner faire constater la vacance. Et dans ce cas, dans le dernier cas de la révocation, c'est à l'issue d'un conseil des ministres après concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat que les gouverneurs peuvent être relevés de leurs fonctions. Dans ce cas, la commission électorale nationale indépendante peut organiser l'élection du nouveau gouverneur dans un délai de 30 jours.
Et donc, pour vous, aucune procédure n'a été respectée?
Mais je viens de vous lire, c'est l'article 198 de la Constitution de la République. Je ne sais pas si mon co-débatteur pourrait nous dire sans crainte d'être contredit, qu'il y a 30 jours, il y a eu un conseil des ministres qui a délibéré sur ces situations et qui a obtenu justement que ces gouverneurs soient démis, et qu'aujourd'hui nous sommes en situation où l'élection peut être valablement organisée pour les nouveaux gouverneurs. C'est ce qui est étonnant justement. On voit apparaître la décision de la CENI publiant le calendrier, mais on n'a pas vu d'autres documents officiels dans ce sens-là. C'est que des gouverneurs qui ont été investis par ordonnance après une élection peuvent être démis par une décision, n'est-ce pas, de la CENI.
Maître Sylvain Loumou, est-ce que le rapporteur de la, adjoint de la CENI qu'on a suivi, professeur Onésime Koukatoula, n'a-t-il pas raison quand il dit que ce débat n'est pas au niveau de la CENI?
Oui, ce débat n'est pas au niveau de la CENI. Ça veut dire que il nous permet de croire qu'en tout moment où on peut la solliciter de manière illégale ou en violation des lois, elle peut se livrer à organiser des scrutins, des processus comme elle veut.
A-t-elle les prérogatives de dire non?
En tout cas, elle a les prérogatives de vérifier dans son entreprise
la légalité.
Elle ne peut pas poser des devoirs en dehors de toute légalité. Sinon, nous rentrons à l'état de nature, l'état de l'arbitrariété incontournable et regrettable. Merci. C'est que justement le chef de l'État n'a pas voulu, lorsqu'il tenait son discours à l'inauguration, n'est-ce pas, au lancement des journées des États généraux de la justice. Et ça, il était de bonne foi, je n'en ai pas de doute.
Merci Maître Sylvain Loumou, je reviens à vous tout à l'heure. Maître Soudi Kimputouani-Massi, vous êtes expert en décentralisation. Quelle est votre analyse à vous?
Merci beaucoup pour la parole. Notre émission étant aussi à caractère purement pédagogique, nous avons le devoir de rappeler, comme venait le faire en partie le confrère Sylvain Loumou que je viens de suivre, pour que nos auditeurs nous comprennent et qu'ils comprennent en même temps dans quel sens nous sommes en train d'orienter nos échanges. Quand est-ce qu'il y a organisation des élections au niveau des provinces? D'abord, la condition générale, c'est lorsque les différents gouverneurs de province ou les différents gouvernements provinciaux sont arrivés fin mandat. C'est le cas sur presque toutes les provinces aujourd'hui, donc la CENI. Le moment où l'option sera levée pour l'organisation générale au niveau des provinces, donc elle est en droit d'organiser ses élections en ces temps. Les autres conditions qui créent la vacance, c'est soit la démission, comme l'a dit mon confrère, soit le décès, soit la motion de censure ou de défiance qui emporte en même temps le gouverneur de province, ou encore la révocation dans les conditions prévues par la Constitution. Alors, ici, nous sommes devant deux cas. Nous sommes devant les cas des gouverneurs en fonction qui, lorsqu'on veut proclamer un calendrier des élections de ces gouverneurs-là qui n'ont pas été démis par l'une des conditions précitées, ça veut dire que ces gouverneurs sont censés avoir déposé leur démission pour créer la vacance. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, nous sommes devant la situation des gouverneurs déchus. Ils ont été déchus par motion de défiance ou de censure, selon les cas. Et parmi ces gouverneurs-là, il y en a qui parce que ces motions-là, une fois adoptées, sont susceptibles de recours devant la Cour constitutionnelle. Parmi ces gouverneurs-là, il y en a qui ont exercé ces droits de recours et qui auraient obtenu les arrêts de la Cour les réhabilitant. Ça veut dire, après avoir été réhabilités, ils sont rentrés en fonction conformément à cette décision de justice qui est insusceptible de recours, parce qu'ils sont rendus en dernier ressort. Alors, lorsqu'un calendrier est publié pour organiser les élections dans les 11 provinces qui incluent les deux cas, c'est supposé que la CENI étant saisie par les ministres ayant l'intérieur dans ses attributions, a tous les éléments qui attestent que tous ces postes-là sont vacants. Ça suppose que pour le gouverneur des provinces, et j'appelle moi en fonction, qui n'ont pas fait l'objet d'une motion ou d'une révocation, c'est censé que ces gouverneurs-là ont déposé préalablement leur démission pour que la vacance soit constatée. La même chose pour les différents gouverneurs qui ont été réhabilités. Lorsque on publie leur poste pour les élections, ça suppose que après leur réhabilitation, ils sont censés avoir aussi démissionné avant la publication du calendrier. C'est là que peut-être que je voudrais dire à mon frère Benoît Loulama que si ceci s'est fait après la publication du calendrier, il y aurait peut-être une petite entorse conformément à nos dispositions constitutionnelles et légales.
Mais,
il y a aussi
Maître Soudi,
un autre.
Oui. Maître, vous avez toujours la parole, mais en ce qui concerne également ces démissions, on a suivi des cas de certains gouverneurs réhabilités par la Cour constitutionnelle qui voulaient retourner dans leur province, mais qui en ont été empêchés, même s'ils auraient déposé des démissions. Pourquoi cela ne se fait-il pas officiellement?
En principe, ce sont des actes qui ne sont pas secrets. Sont des actes qui sont publics. Moi, personnellement, avant cette émission, j'ai suivi publiquement le gouverneur du CILCIV a déposé sa démission. Je suis en train de penser que ça a été le même cas pour les autres si ces démissions existent. Ici, il y a un problème de temps. Moi, je ne vous parle pas politique, je vous parle de ce qui est vraiment technique sur cette question. Il y a un problème de temps. Ces démissions-là, pour tous ces gouverneurs, c'est les gouverneurs réhabilités par la Cour constitutionnelle au regard de la loi et de la Constitution, sont des gouverneurs en fonction parce qu'ils sont censés entrer dans leurs fonctions et les exercer. Les gouverneurs qui n'ont pas fait l'objet d'une déchéance quelconque sont en fonction. Toutes ces démissions-là sont censées intervenir avant la publication du calendrier de la CENI. Si la CENI l'a fait avant que ces démissions soient déposées pour constater les différentes vacances dans ces différentes provinces. Pour moi, c'est même la CENI qui est en difficulté devant la loi.
Merci, Maître Soudi. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Benoît Yulama, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka.
C'est Marval Bassila qui vous appelle de Mbandaka dans la province de l'Équateur. La triste analyse est celle d'une illégalité de plus qui démontre l'empiètement des vertus républicaines par la majorité présidentielle. Comment vouloir faire élire les gouverneurs parallèles pendant qu'ils sont en fonction, n'ont pas démissionné, ne sont pas décédés, ne sont pas définitivement empêchés, ni n'ont pas été déchus? Ou si certains l'ont été, ils sont réhabilités par la justice? Ne sont-ils pas en train d'organiser un dépassement budgétaire avec cette élection injustifiée et imprévue pour expliquer autre chose par après, qui représente une décision judiciaire de la haute cour de surcroît pour la majorité présidentielle? Pourquoi la majorité présidentielle se contente-t-elle d'annuler l'ordonnancement républicain d'une nation qu'elle prétend gérer comme une terre conquise?
J'ajoute, Benoît Yulama, cette réaction de John de Kinshasa qui dit « Doit-on conclure que la gestion du pays se base désormais sur les humeurs ou la rationalité ? Car d'aucuns ignorent que certains gouverneurs, non seulement qu'ils ont été rappelés à Kinshasa, mais ont aussi été empêchés de rentrer dans leur province contre les décisions de la Cour constitutionnelle. C'est là la cacophonie dans laquelle est plongée la RDC, donc la CENI s'écarte aussi de son indépendance. » Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Oui, et je commencerai d'abord par saluer les deux auditeurs qui ont envoyé leur réaction à la radio Capi. Mais je dois tout de suite d'abord répondre à M. John Keta Kinshasa que les concertations qui ont eu lieu ici à Kinshasa ont tenu compte de tous les aspects. Nous ne sommes pas des apprentis sorciers en matière juridique. Nous sommes formés sur cette question. Et lorsque nous échangeons avec le gouverneur, il y a des démissions, donc il y a possibilité que nous ayons élection. C'est le cas qui a été
Des démissions qui sont des actes office, qui devaient se faire officiellement, mais qui se font presque en cachette.
Oui, je ne sais pas ce que vous appelez cachette, puisque ces démissions sont envoyées généralement à la hiérarchie, au niveau du ministère de l'Intérieur. On a enregistré toutes ces démissions-là.
Mais elles ont été officiellement élues.
Oui, je crois que...
Et les démissions se font derrière la porte.
Mais ce n'est pas derrière la porte, monsieur le journaliste. Tout a été fait légalement. Et je crois qu'il est question que vous descendiez comme d'habitude, comme vous le faites toujours avec votre micro. Vous vérifiez sur terrain. Vous constaterez qu'il y a eu effectivement des démissions. Le cas qui a été cité, c'est un cas parmi tant d'autres. Mais j'ai fait constater à notre auditeur de l'Équateur, de Mbandaka, que, par exemple, dans le Bazouélé, le vice-gouverneur avait déjà perdu la vie presque 3 ou 4 jours après les élections. Et c'est près d'une année maintenant que nous avons dans cette province que le seul gouverneur qui travaille. Et donc, il y a une vacance.
Ça, c'est un cas normal.
C'est un cas aussi. Et donc, il y a plus de supputations, parfois des rumeurs. Et les gens n'arrivaient pas à vérifier l'information à la source, c'est ce qui crée tout ce que nous avons entendu, mais au moins nous sommes respectueux des tests légaux et la preuve c'est que ces gouverneurs ont été associés dans les échanges et ils savent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont posé comme acte qui est totalement légal. Et contrairement à mon co-débatteur Maître Lomou, je crois que c'est aussi question d'information. Il n'a pas puisé les informations à la source, mais il spécule sur des choses qu'il n'a pas totalement la maîtrise. C'est cela que j'ai pu attendre de toute sa réflexion. Puisque dire que le désaspect qu'il a évoqué, mais je démontre amplement qu'il y a eu un cas de mort dans la province du Bazouélé, ce qui lui manque, lui, dans son raisonnement. Je démontre aussi qu'il y a eu des démissions. Et nous donnons l'exemple de M. Sizambou qui a démissionné de ses fonctions. Je ne sais pas quelle est la disposition qui
Monsieur
a été violée.
M. Kazembe a démissionné officiellement.
Tous ont déjà déposé des démissions et rassurez-vous, demain je
serai
vous accompagner.
De temps
ils ont déjà démissionné. Et je ne peux pas vous dire le temps puisque d'autres ont démissionné quand ils sont sortis déjà du bureau. Donc il y a eu des démissions.
Alors Benoît Youlama, tous ces gouverneurs sont de la majorité présidentielle. N'avez-vous pas l'impression qu'il y a un certain désordre au sein de votre famille politique qui ressurgit dans la gestion même des affaires de l'État?
Et je ne peux pas parler qu'il y aurait un désordre. Nous sommes dans une société humaine où chacun a son comportement, ses agissements qui ne sont pas nécessairement les agissements de sa famille politique. Et lorsque les conflits deviennent un peu permanents, par exemple dans certaines provinces, nous ne pouvons pas encourager que les conflits continuent. Il faut certainement à ce niveau-là arrêter et prévenir. Et vaut mieux que guérir, comme je l'ai dit.
Mais c'est la majorité présidentielle qui a fait perdurer ces conflits au lieu de laisser les assemblées provinciales travailler normalement, voter ou pas la motion. Mais il y a eu beaucoup d'interférences pour empêcher les institutions provinciales de bien fonctionner.
Bon, il n'y en a pas eu beaucoup. Je sais que le seul cas que vous pouvez faire référence, c'est le cas de Xangani. Mais au moins, nous avons décidé, on les a aidés pour que, et même aujourd'hui, les députés provinciaux se choisissent encore des gens qu'ils estimeraient mieux que ceux qui ont été envoyés par le passé. Mais nous estimons que ce qui nous intéresse au niveau de la famille politique, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et lorsqu'il y a des cas de conflit, je ne sais pas à quel niveau on va commencer à réciter les choses. C'est que nous vivons dans cette province avec des gens qui sont contestés presque à longueur des journées. On ne peut pas continuer à voir cela, en tout cas s'accentuer. Il faut arrêter cela et ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de toute la communauté. Que ce soit les autochtones, que ce soit d'autres citoyens qui habitent dans ces provinces-là, mais aussi même l'aspect économique. Je sais que certains députés provinciaux n'ont pas été si sages dans leur fonctionnement, mais nous estimons qu'il faut absolument changer des choses, et c'est pour l'intérêt de la communauté par rapport à ce que certains penseraient, puisque nous n'en tirons pas profit. Le seul profit que nous souhaitons est tirer ce que la nation aille de l'avant et que les provinces fonctionnent normalement sans beaucoup de conflits entre les députés provinciaux et les exécutifs provinciaux.
Malheureusement, on sent que vous n'avez pas pensé à la manière de faire les choses.
Oui, on peut nous reprocher.
Le souci est légitime, mais la manière est mauvaise.
On peut nous reprocher d'avoir peut-être envoyé des gens qu'on n'avait pas suffisamment de données sur leur passé. C'est tout à fait normal. Nous sommes humains, mais nous sommes en train de rectifier pour que les choses aillent de l'avant.
Merci. Maître Sylvain Lumuya, pour vous, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
David Loyoko, je vous appelle à partir de Kinshasa Gombe. Quand le peuple, l'opposition, la société civile et la communauté internationale demandent à Nanga de publier le calendrier pour les élections que le peuple congolais attend pour l'alternance au pouvoir, Il y a des prétextes, c'est pas des élections sans les Kassai, l'insécurité, mais quand la majorité présidentielle demande, il n'y a pas de prétexte pour organiser les élections des gouverneurs. Ainsi, mes deux questions. Pourquoi ne pas renforcer la sécurité, accélérer l'enrôlement dans l'espace Kassai avec l'argent qu'on veut gaspiller pour convoquer les assemblées provinciales en session extraordinaire? En outre, Nanga travaille pour plaire au peuple congolais ou plaire à la majorité présidentielle?
Maître Lumo.
Bien, je voudrais bien remercier notre ami David Loyoko de Kinshasa qui a posé deux questions pertinentes. Mais je voudrais, avant de rencontrer ses préoccupations, rappeler que le conseiller
Benoît Youlama
vient de dire qu'il y a d'autres gouverneurs qui étaient en train de déposer leur démission pendant qu'ils venaient de partir du bureau. Ça veut dire que avant qu'ils ne viennent ici, il y en avait qui n'avaient pas encore démissionné. Donc, ça dit tout en ce qui concerne le respect de la loi et donc des formes prescrites pour arriver, n'est-ce pas, à cette situation. Aussi, dans sa motivation, une motivation qui n'apparaît nulle part ailleurs, même pas dans les décisions rendues publiques par la CENI, c'est la volonté de la famille politique qui veut changer les choses à la base. Franchement, ça me surprend parce que le cas dont il parle, donc le cas évoqué, relève de la situation justement où il peut se constater une crise politique grave entre les organes provinciaux et où le chef de l'État est appelé à intervenir, peut intervenir. Mais cette fois-là, il faudrait qu'il intervienne par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres, en concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et j'ai rappelé ce cas. Moi, je suis juriste. Je ne voudrais pas voler la vedette à ceux qui font les sciences politiques. Et donc, je suis demeure très attaché à la loi. David Loyoko a raison. Pourquoi ne pas renforcer la sécurité dans la zone du Kassai pour accélérer l'organisation de l'enrôlement? Et pourquoi ne pas le faire, s'il avait raison? Parce que au-delà du fait que nous sommes en pleine campagne de révision du fichier électoral, il y a d'autres modalités auxquelles l'on peut recourir, y compris dans les situations, dans les circonstances difficiles, dans les circonstances exceptionnelles comme celle-là. Un expert, c'est celui qui penserait justement à des solutions exceptionnelles pour résoudre la crise. On peut penser justement, aujourd'hui, il y a les populations du Kassai qui sont en Angola. Comment est-ce que la CENI entend faire l'enrôlement dans ces zones-là maintenant, si elle ne peut pas penser à des méthodes alternatives? Il y a le vote par liste d'émargement qui peut être encadré avec des conditions pour qu'il se déroule dans les bonnes conditions et que les délais qui sont prévus pour la tenue des élections soient tenus. Il en est de même de son questionnement sur est-ce que le président de la CENI et donc toute la CENI travaille pour satisfaire le peuple congolais ou satisfaire les humeurs. C'est le peuple congolais qui est l'émanation du mandat que détient la CENI aujourd'hui. Et donc, il faudrait que l'on s'interpelle, que l'on voie dans ce sens-là si les Congolais se retrouvent dans les décisions que l'on prend ou ils ne se retrouvent pas du tout.
Maître Sylvain Lumo, cette émission est pédagogique. La Cour constitutionnelle, est-ce qu'elle aurait certaines prérogatives, par exemple, pour bloquer ce mécanisme qui empiète sur ces arrêts qui sont opposables à tous? Est-ce que la loi le prévoit, par exemple?
Mais la Cour constitutionnelle, comme vous l'avez dit, a pour mission principale, donc elle est la gardienne de la Constitution. C'est en vertu de ce rôle de gardiennage de la loi qu'elle a été saisie et qu'elle a rendu des décisions qui sont insusceptibles de recours. Et notre confrère qui intervient en ligne l'a dit, ces décisions sont obligatoires et d'application immédiate. Cependant, il se constate que une famille politique qui veut changer les choses à la base, elle s'est décidée de ne pas respecter ces décisions, ces arrêts de la Cour qui ont rétabli et donc les gouverneurs qui l'avaient saisi en son temps. Là encore, il faudrait que l'on puisse se demander si les décisions de la Cour là, elles sont insusceptibles de recours, elles sont immédiatement applicables rien que pour d'autres et pas pour d'autres. Merci. Congolais.
Merci. Maître Soudia, pour vous, cette réaction qui nous vient une fois de plus de Mbandaka.
C'est lui qui a une poêle à Botouli. depuis la province de l'Équateur à Mbandaka. À mon humble avis, cette décision de la CENI est anticonstitutionnelle. C'est une façon de torpiller la Constitution. Dans ce cas d'espèce, la Cour constitutionnelle doit se saisir d'office pour procéder à l'annulation de cette décision, soit revoir cas par cas. Les gouverneurs et vice-gouverneurs qui ont été réhabilités par elles-mêmes doivent rester et ou organiser les élections là où les postes sont vacants. La CENI doit faire preuve de responsabilité pour ne pas se discréditer. En tout cas, cette décision est un non-sens.
Maître Soudi.
Que mon ami Cédric Mbandaka est en train d'aborder la question dans le même sens que mon intervention de tout à l'heure. Et moi, je me suis attaqué directement à la CENI parce que j'ai évoqué la notion temporelle de dépôt de ces différentes démissions. Au regard de la Constitution et de la loi sur la libre administration des provinces, il faudra que cette vacance-là soit d'abord constatée avant la publication du calendrier. Je suppose que cela a été le cas et j'ai donné des cas d'espèce pour comprendre si cela a suivi la procédure normale. Mais par contre, il y a une petite crainte dans le cadre de la mise en œuvre des principes de gestion de la décentralisation dans notre pays. Je me pose des questions si les différentes motions qui ont été prises pour les cas de gouverneurs qui ont été réhabilités par les arrêts de la Cour constitutionnelle, si ces différentes motions des motivations évoquées dedans qui ont été annulées par la Cour ont été les mêmes qui ont milité pour que la famille politique de ces différents gouverneurs puisse, après les arrêts de la Cour, leur demander de nouveau à déposer leur démission pour qu'ils soient remplacés. Si cela est le cas, ça veut dire que la Cour n'a pas bien fait son travail. Vous voyez la difficulté, là où je reviens, la notion de mon ami Cédric qui a parlé en direct de Mbandaka. Si la Cour estime que ces arrêts ont répondu à la requête ou aux différentes requêtes qui lui ont été présentées au regard de ces différentes motions qui ont été présentées par les assemblées provinciales et que la Cour avait raison de les réhabiliter parce que ces différentes raisons ne tenaient pas debout, ça veut dire que ces gens devaient rentrer et exercer leurs fonctions. Et si la famille politique, à son tour, trouve que ces gens-là, si on les laisse rentrer là-bas, je parle du cas de ceux qui ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle, et que s'ils rentrent là-bas, il y aura des conflits, ils vont continuer avec des négociations, tout ça, ça veut dire que notre haute cour n'a pas bien rendu sa décision. Et là, il y a une grande question qui se pose sur la valeur de nos décisions de justice.
Maître Soudi.
Cette question, c'est une question vraiment complexe et je crois que les gens devaient l'analyser à froid, sans trop mettre de considérations politiques dedans. Il faudra voir les aspects aussi techniques qui puissent nous donner une jurisprudence fâcheuse.
Maître Soudi, effectivement, y a-t-il moyen d'allier considérations politiques et aspects de la procédure?
Il y a moyen de le faire et je l'ai dit. Ça veut dire que il y a moyen de voir parmi ces différents gouverneurs de province ceux qui ont été réhabilités, par exemple, par la Cour, si, au niveau de la famille politique, on peut faire une seconde lecture, bien sûr, qui ne pourra pas venir annuler les arrêts de la Cour, mais voir ceux qui répondent, par exemple, dans des conditions pour qu'ils reprennent leur travail là où ils étaient, on les retourne. De manière aussi à donner une leçon aux différentes assemblées provinciales qui ont, pour la plupart aussi, beaucoup d'abus. Et ça, il faudra les retenir. Il y a des assemblées provinciales qui abusent. Et nous l'avons dit dans différentes émissions ici. On peut voir un gouverneur gérer, il croit que c'est lui qui a tout l'argent, c'est lui qui bouffe tout l'argent, et ça devient des conflits individuels qui sont transposés dans les institutions, ainsi de suite. Et dans ces cas, les arrêts de la Cour sont la possibilité pour remettre à l'ordre ces différentes assemblées provinciales et leur demander, dans la prochaine occasion, de ne présenter que des questions qui sont purement des fonds et qui sont défendables devant les instances judiciaires.
Maître Soudi.
Mais lorsqu'on arrive dans des cas comme celui-ci, au cas où une motion de défiance était présentée de manière fantaisiste par une assemblée provinciale, je crois qu'il y aura des problèmes même pour le nouveau gouvernement.
Alors, Maître Soudi, cette situation dresse un tableau sombre de la gestion des provinces en RDC. Que faut-il faire pour redorer le blason?
Je crois que il y a un principe clé dans la mise en œuvre de la décentralisation. Ça s'appelle la libre administration. Lorsque on sera en mesure d'appliquer ces principes dans notre pays et que la justice puisse faire convenablement son travail, on va éviter tout ce qui arrive. Je pense, quand il y a un gouverneur qui est déchu et qu'il est constaté, comme l'a dit mon frère Yulama, il y a des détournements, des mégestions, des ceci, cela, et que cette personne-là a été déchue et que les recours, parce que la personne ne peut qu'exercer son droit de recours, et qu'après ces recours, la justice fait aussi bien son travail, je crois que la famille politique peut, dans ces cas, présenter un autre candidat qui puisse aller remplacer celui-là qui a été déchu pour des actes qu'il a commis.
Merci.
Mais lorsqu'il y a présomption ou il y a supposition que la personne qui a été, par exemple, déchue par une assemblée provinciale a été réhabilitée par la Cour, on ne sait pas aussi par quel mécanisme, là, je ne mets pas en cause les arrêts de la Cour, à ce moment-là, si cette personne retourne encore, ça crée aussi un doute au niveau du politique.
Maître Soudi, un mot en guise de conclusion parce que l'émission touche déjà à sa fin.
En conclusion, je pense qu'il y a toujours lieu de respecter la procédure de tous côtés, que ce soit du côté de la gestion politique, que ce soit aussi du côté de l'administration des élections. Je pense que la CENI avait l'obligation d'avoir un soubassement complet.
Merci.
Et voir si réellement ces différents gouverneurs qui font l'objet du calendrier ont été déchus.
Merci.
Il y a des vacances à l'air poste avant de publier les calendriers.
Merci Maître Soudi. Benoît Yulama, que faut-il pour redorer le blason en ce qui concerne la gestion des provinces qui paraît calamiteuse?
Il y a plusieurs éléments qu'on ne sera pas totalement développé ici présent, mais nous pensons qu'il y a moyen de revoir même cette loi sur la gestion de province. Il y a des problèmes liés au gouvernorat des autochtones qui est tout un problème sérieux par rapport à ce que nous avons comme gestion de la République. Est-ce que si nous avons un ancien modèle qui a été utilisé par moment par la Deuxième République où les non-originaires sont des gouverneurs, parfois nommés, deux ou trois, ça pourrait quand même ramener d'abord l'équilibre sur le plan sécuritaire, mais aussi sur les différents conflits que nous connaissons au niveau de la base. Il faudrait aussi renforcer la Cour des comptes. Il faudrait que cette Cour ait la possibilité d'aller dans toutes les provinces pour auditer partout où il y a des problèmes. Mais il faut assurer aussi la formation des députés provinciaux, dont la plupart sont des gens qui n'ont pas la bonne formation politique. Et c'est pas une insulte, mais justement pour recadrer les choses, puisque la Cour a vérifié la légalité des décisions prises par les assemblées provinciales, mais dont le fond, la Cour n'a pas parlé du fond, des questions liées à la gestion et tout ce qui a été reproché à ces gens-là. La
Merci.
Cour regarde que la légalité, la conformité des décisions par rapport à la Constitution et non sur les cas de vol ou de détournement.
Merci. Maître Sylvain Lomou, comment vous entrevoyez l'avenir de nos provinces face à cette situation?
Face à cette situation, je veux bien vous dire que tout l'édifice de la décentralisation est mis à mal avec ce qui se passe. La population, les citoyens congolais attendent vivement le calendrier électoral garantissant la tenue des élections en décembre 2017. Et je crois que la CENI devrait s'atteler plus à cela qu'à prendre des postures, des distractions qui peuvent même énerver les citoyens.
Et la justice doit rester libre, comme a dit Maître Soudi.
Et jouer véritablement son rôle comme garant des libertés fondamentales.
Et quelle est votre appréciation de la proposition de Benoît Yulama sur le gouvernement des non-originaires?
C'est une solution qui peut être essayée, mais je crois qu'il faudrait d'abord qu'on applique ce qui a existé avant de mettre à mal, c'est envisager de léguer Ferenda à d'autres solutions.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Restez branchés sur la radio de la paix. Merci de votre attention. Au revoir.